Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Germain, c'est toujours un plaisir de recevoir notre invité à l'émission. En premier lieu, parce que j'ai toujours hâte de voir quelle sera la caricature qui va en découler par notre ami André Dagenais, qui fait toujours des sketchs assez intéressants.
Toujours très recherché.
Ouais, c'est... Alors, j'invite les gens, évidemment, à aller voir cette caricature-là sur le site web du Guide de l'auto, qui sera là dès lundi prochain, pour ensuite pouvoir réécouter l'émission, si vous l'écoutez en direct, bien sûr. Mais notre invité, c'est Bertrand Godin, à qui on parle depuis l'Europe. Parce que Bertrand, lui, les tempêtes de neige, il se bade pas avec ça. Il s'est dit, on va aller se promener en Espagne pendant que les Québécois se tapent leur première
il
neige.
Il se promène pas à pied, on y reviendra d'ailleurs.
Oui, ouais, hein? C'est ça. Il s'amuse un petit peu. Salut Bertrand.
Bonjour.
Salut, hey, ça va bien. C'était juste pour pas pelleter là, que j'ai fait ça.
Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, toi, t'es avec nous ce matin pour nous faire la morale, pour nous dire quoi pas faire, puis toi, tu te pousses à l'autre bout, là. C'est exactement ça, là.
Oui. C'est beaucoup plus facile. C'est... C'est pas mal moins gelé à vous parler dans ce temps-là.
Oui. J'imagine bien.
Bon, évidemment, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Bertrand. T'es instructeur de conduite à l'école de police de Nicolet depuis plusieurs années. T'es au fait de tout ce qui se passe en matière de sécurité routière et un des plus gros fléaux, malheureusement, encore aujourd'hui, ça demeure l'alcool au volant ou, évidemment, les substances, parce qu'aujourd'hui, bon, le pot est légal.
On peut avoir les facultés affaiblies c'est par ça, autre chose que l'alcool. Les médicaments, les drogues, tout ça rentre en jeu.
Une relation sexuelle au volant, tout ça, c'est des facultés affaiblies.
Ça te regarde, Antoine.
Non, mais bref. Alors, on s'en va pas là, là.
On est à la radio, heureusement.
Mais évidemment, t'es
ça
là
dérape,
pour...
Ça dérape, hein? Ça dérape beaucoup.
Ouais.
Ça dérape beaucoup.
Les chemins sont coulants.
Oui, c'est ça. Bon, OK. On recule-tu de 30 secondes pour commencer?
Non, continue.
Okay, c'est beau. Bertrand, évidemment, tu tires quoi du bilan de ce qu'on constate? Parce que toi, tu as un rôle, évidemment, de porte-parole pour conscientiser les gens, là, évidemment, à avoir une conduite responsable. Et on en parle, évidemment, parce que la période des fêtes arrive et que là, ben, les risques sont agrandis parce qu'il y a des parties partout. Et parce que, évidemment, comme pendant 2 ans et demi, 3 ans, il n'y a pas eu de gros parties ou de vraies périodes des fêtes, ben là, on a peut-être l'impression que les gens vont fêter, vont se rattraper pour les 2-3 années où ils n'ont pas fait grand-chose.
Ah ben c'est certain que lorsqu'on mélange l'émotion, justement, de revoir les êtres chers, ceux qu'on n'a pas eu vraiment la chance de fêter à cause de la COVID, eh bien, c'est certain qu'il faut penser à se préparer lorsque vient le temps de revenir à la maison. Parce que le mélange émotion, alcool, volant, c'est à proscrire, bien entendu. Et ça, ben, depuis une 4e année, je suis très fier d'être associé à la brasserie Labatt pour passer le message et de dire aux gens, préparez-vous quand vient le temps de fêter. Essayez de désigner un conducteur, pas celui qui a consommé le moins, mais celui qui n'a pas consommé du tout pour le retour à la maison. Et à ce moment-là, ben, on évite... tout simplement de prendre le volant dans un état qui pourrait vous emmener beaucoup d'ennuis. On le sait, il y en a trop de collisions mortelles. C'est tous des collisions qui peuvent être évitées juste parce que les gens prennent les bonnes décisions.
Puis on pourrait penser, bon, instinctivement, que l'Abbat qui donne la morale, c'est un peu glissant, mais en même temps, l'Abbat a des initiatives pour justement contrer l'alcool au volant. Peux-tu nous en parler?
Oui, ben c'est certain que le but de la BAT, c'est de faire en sorte de passer des joyeuses fêtes en toute sécurité et faire en sorte que les gens se préparent. Vous savez, ces genres de situations-là, on n'en veut pas. Et le message, malgré le fait que oui, on en parle à chaque année, il faut continuer de taper sur le clou. Eh bien, ça fait du chemin, parce que si on regarde l'évolution de ce que c'était avant, dans les années 70, 80, 90, eh bien, on a franchi un pas vraiment intéressant avec les nouvelles générations qui, eux, prennent les décisions d'avoir un responsable quand il y a une fête à la maison, de prendre les pieds de tout le monde, de surveiller. Et s'il y en a un qui prend un verre d'alcool, ben on appelle les rouges, on appelle quelqu'un va reconduire les gens. Et c'est comme ça qu'on a réussi à améliorer le bilan.
Donc, tu constates une amélioration dans le comportement des plus jeunes automobilistes par rapport aux plus vieilles générations. C'est ce que je comprends.
Bien, tout à fait, parce qu'eux, ils ont été habitués à zéro alcool lorsque tu obtiens le permis de conduire. Et souvent, les jeunes continuent sur cette lancée. Et okay. Bon, il y aura toujours peut-être certains qui vont passer à travers les mailles du filet, comme on dit, mais en grande majorité, c'est vraiment remarquable.
Donc, la conscientisation, elle doit se faire beaucoup plus au niveau des gens qui sont plus âgés et qui, eux, ont conduit à une certaine époque avec une bière entre les jambes en débouchant leur bouteille avec leur ceinture de sécurité, là. Parce que il fut une époque où c'était comme
réalité,
ça, là.
C'était la réalité, oui.
Ah oui, ben ça a été une époque où, justement, il y avait au-delà de 2400 décès par année. Le parc d'automobiles était quand même 4 fois moins élevé. Dire à quel point on a fait un bon pas.
Wow! Okay.
C'est intéressant de te recevoir cette semaine, Bertrand, parce que, bon, le sujet de la sécurité routière est inévitable avec toi, mais j'ai l'impression que c'est un sujet encore plus d'actualité cette semaine. Bon, oui, parce qu'il y a eu une chute de neige vendredi, et en plus, ben, il y a eu le malheureux décès d'une jeune écolière. Je sais que tu n'es pas au Québec en ce moment, peut-être que tu n'es pas au fait de l'histoire, mais les grandes lignes sont les suivantes. Une jeune fille se rendant à l'école ben, a malheureusement perdu la vie parce qu'elle a été happée par un conducteur. C'est quoi les réactions de l'instructeur de conduite que tu es face à cette situation?
Ben, vous savez, la conduite nécessite principalement qu'on porte attention aux gens autour de nous. Je comprends que bon, la réglementation, oui, il faut la suivre, il faut respecter les limites, il faut respecter les règles. Mais ayez les yeux à l'extérieur du véhicule, surveillez les gens. C'est pas parce que on roule en dessous de 50 km/h qu'on respecte les limites que ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. Et vous savez, la gestion de l'attention est extrêmement complexe. Des fois, on a tendance à sous-estimer ce que représentent les notions d'observation, de gestion d'attention, d'analyse, pour faire les bonnes actions. Et lorsqu'on parle de connaissance, parce que la conduite, c'est un mécanisme complexe où 40% dépend de vos connaissances directement liées à votre sens d'observation, il y a l'autre 40% qui est les facteurs humains, le stress, la pression qu'on se met, votre forme physique, psychologique,
ouais,
qui va avoir une influence directe sur votre analyse. Et 20%, c'est de la technique. Donc, c'est pour ça que ça prend vraiment toutes nos facultés. Et même, j'irais jusqu'à dire que la confiance en soi joue un rôle. Quelqu'un qui est pas confiant va regarder plus longtemps, va être en retard sur bien des choses qui peut emmener là aussi énormément de problèmes.
Mais en même temps, si on est trop confiant de ses moyens, on peut être amené à prendre la conduite à la légère, là. Donc, c'est l'équilibre qu'il faut aller chercher.
Oui. Oui, et ça, c'est tellement bien dit, c'est l'équilibre. Parce que là aussi, et on le voit dans des conditions de neige, de glace, ben on a deux types de conducteurs. On a les conducteurs qui se retrouvent dans une situation à surestimer les capacités de la voiture et de leur capacité à eux. Et il y a ceux, eux, ils vont rouler beaucoup plus vite et bon, on va les retrouver des fois dans un poteau de téléphone ou en dehors de la route. Et il y a ceux qui, eux autres, sous-estiment les capacités de la voiture et des éléments par un manque de connaissances, eux vont rouler très, très lentement, prétextant qu'ils sont sécuritaires, mais finalement, sont
c'est
juste pas
mieux,
conscients
ouais,
de ce que la voiture peut faire.
Mais je trouve ça intéressant
donc,
que tu dises ça.
Souvent, ben,
je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que, bon, évidemment, aujourd'hui, les pneus d'hiver sont obligatoires, mais on se souvient, dans les années 90, au début des années 2000, lorsque la mode des VUS est arrivée, les véhicules que tu voyais dans le champ l'hiver, c'était tout le temps des 4x4 parce que les gens pensaient qu'ils étaient invincibles et finalement, ben, ils se rendaient compte que ça avait quand même des limites, là. Puis le problème, c'est qu'avec un 4x4, tu te rends plus loin dans le champ, en plus.
Voilà.
Oui, puis et même, je dirais, aujourd'hui, avec tous les systèmes de contrôle de stabilité, ouais, de contrôle de motricité, d'ABS, eh bien, les gens ont tendance à penser que c'est invincible, alors qu'on le sait tous, Vous savez même mieux que moi que bon, ces systèmes-là ont leurs limites. Il faut les connaître, il faut les reconnaître pour mieux les respecter.
Absolument.
Puis certains systèmes d'aide à la conduite comme ça vont fonctionner par radar et vont être obstrués quand il y a de la neige, de la glace ou ce genre d'intempéries. Alors, il faut être capable de conduire et de réagir même si ces aides-là, qui deviennent parfois des béquilles, ne sont pas toujours présentes et fonctionnelles.
Mais ça, c'est tellement vrai parce qu'il y a des gens qui vont mettre le contrôleur de vitesse dans des situations d'agadou. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que la traînée fait ralentir la voiture. Et là, ben la voiture accélère alors qu'on ne devrait pas lorsqu'on est dans une situation qu'on peut dire d'aquaplanage. Et là, ben ça emmène des pertes de contrôle. Et si on lit les instructions, et ça, je doute que tous les propriétaires de voitures prennent le temps d'avoir... comme livre de chevet, leur manuel d'instruction, eh bien, se font surprendre par ce genre de situation.
Je veux revenir sur un point que tu as mentionné un peu plus tôt, Bertrand. Je trouve ça intéressant. Tu dis que 40 % de la conduite automobile, c'est le facteur humain, incluant le stress, le sentiment que tu oui. as, ta bonne humeur, ton état d'âme. Je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que, évidemment, bon, il y a eu, on a entendu toutes sortes de choses cette semaine à la radio suite à l'accident de la petite Maria qui s'est fait frapper sur la rue Parthenay. Évidemment, un des facteurs qui a été nommé, et j'ai pas le choix d'être d'accord avec ça, c'est qu'on met beaucoup de stress sur l'automobiliste qui entre en ville par la quantité de chantiers, de règlements, de zones de construction qui changent quotidiennement, par le fait que les conducteurs automobiles doivent se rediriger en utilisant des systèmes comme Waze, comme Google Maps, qui les amènent dans des quartiers résidentiels et qui crée... Bon, évidemment, tout ça, ça crée du retard, ça crée de la pression sur l'automobiliste. Donc, il y a un sentiment négatif de l'automobiliste moyen qui entre en ville par la mauvaise gestion des chantiers et de la configuration des rues. Est-ce que ça, tu considères que c'est un problème sur lequel il faut se pencher davantage?
Bien, tout à fait. Il faut que tout ça soit très clair, net et précis. Parce qu'imaginez l'inconfort lorsqu'on arrive... On est habitué d'aller à Montréal. En tout cas, je suis habitué d'aller à Montréal. Et quand j'y vais, j'ai toujours un stress de me dire, bon, OK, quelle sortie va être bloquée? Est-ce que je vais me rendre à l'heure? C'est des éléments qui amènent du stress. Bon, maintenant, il faut... Il y a des trucs pour pouvoir... dégager du stress, de partir plus à l'avance, d'essayer de prévoir et de se dire, ben, si je me trompe de chemin, c'est pas catastrophique. Il y aura toujours une rue un peu plus loin qu'on pourra tourner. Mais il y a des gens qui se mettent une telle pression et combien de fois qu'on l'a vu, même, on a vu des choses incroyables, des gens reculer sur l'autoroute ouais. parce qu'ils avaient manqué leur sortie.
Ouais.
Donc, on voit des choses que tu te dis, ben, voyons donc.
Tu dis ça et j'ai vu ça ce matin. Un gros Mercedes GLS flambant neuf avec des enfants à l'intérieur. La mère avait manqué sa sortie sur l'autoroute 640. Puis elle s'est mise sur le coin de la sortie. Puis elle attendait que l'autoroute se dégage pour reculer et prendre la sortie.
Oui, mais elle faisait attention.
Tu sais?
Ouais, c'est ça. C'est complètement
la prochaine sortie est 1 kilomètre plus loin. Là.
C'est un comportement très dangereux. Ouais. Très, très dangereux. Surtout sachant que les routes sont glissantes. C'est dangereux. J'ai pas d'autres mots.
Bon, évidemment, Bertrand, t'es aussi impliqué avec Opération Nez Rouge. Est-ce que tu penses qu'on va avoir beaucoup de travail chez Nez Rouge cette année? Parce que, bon, évidemment, les dernières années, si je ne m'abuse, le service n'a même pas été offert à une certaine époque.
Ben, écoutez, c'est certain, en plus, avec la brasserie Labatt, qui est impliquée pour une 14e année avec l'opération Nez Rouge, qui est rendue une institution, hein, que c'est dans notre culture maintenant, et c'est génial, ouais. parce qu'à l'époque, effectivement, les gens étaient gênés de prendre Nez Rouge. Aujourd'hui, on en est très fiers d'avoir ce service
ouais.
qui a permis d'éviter que les gens prennent le volant en état d'ébriété. Et ça, ben c'est un des moyens qu'il faut absolument prévoir d'avoir le numéro en poche pour pouvoir prévenir les bonnes personnes au moment opportun.
Est-ce que tu crois que ce serait pertinent d'avoir un service comme Nez Rouge qui serait offert à l'année? On sait que ça existe, mais ça demeure assez, assez marginal, j'ai envie de dire, et c'est pas nécessairement connu du grand public comme peut l'être Nez Rouge.
Oui, ben c'est certain que Nez Rouge œuvre seulement dans le temps des fêtes. Et effectivement, ben aujourd'hui, ben ça a amené aussi la chance de pouvoir comprendre qu'on peut appeler un taxi, qu'on peut appeler Uber, qu'on peut appeler d'autres services de raccompagnement qui, eux, fonctionnent à l'année longue.
Ouais, bon, mais c'est encore une fois, c'est malheureusement pas assez. Parce que est-ce qu'il y a un équivalent à Nez Rouge, par exemple, au Canada anglais, ailleurs au pays, aux États-Unis?
À ma connaissance, non. J'ai pas effectué de recherche là-dessus.
Bon. Je veux qu'on parle rapidement de conduite hivernale avant d'arriver avec notre dernier sujet, Bertrand, parce que c'est la première neige. On le voit. La majorité des gens ont déjà leurs pneus d'hiver, oui, mais on a l'impression qu'ils les ont pas. Qu'est-ce qui se passe dans le comportement humain d'un automobiliste moyen qui a on a tous l'impression là que les automobilistes découvrent la neige pour la
qu'ils
première fois.
Ils ont jamais conduit dans la neige.
Il y a quelque chose de spécial là-dedans.
Alors qu'il y a quoi 8 mois, on conduisait dans la neige là.
C'est ça. Fait que ben oui, mais qu'est-ce qui explique ça selon toi?
Ben la perte de conscience de ce que représente la conduite hivernale. On le voit à chaque première neige, les gens ne savent plus porter une attention à découvrir où peut être l'adhérence sur la chaussée. Il y a une variation d'adhérence tellement incroyable lorsqu'on évolue sur les routes au Québec. Un tronçon peut être carrément sur l'asphalte, se retrouver sur la neige parce qu'il est venté. Avoir de la glace d'un côté, de l'adhérence de l'autre. Quand tu freines, la voiture va pivoter d'un côté et du moment où tu connais comment la voiture va réagir, ben là, à ce moment-là, tu l'anticipes. Et comme n'importe quoi, l'anticipation vous permet d'être tout en douceur, d'être plus calme et d'avoir le contrôle sur tous ces éléments-là. Mais c'est un exercice en soi et ça, les gens, souvent, ils pensent que la voiture va réagir à cause qu'ils ont des bons pneus d'hiver, comme au mois d'août, quand c'est complètement sec, alors c'est complètement le contraire.
Fait que tu dirais aux gens, distancez-vous davantage, puis essayez de comprendre comment la voiture réagit au niveau de l'adhérence par rapport à d'autres situations quand on est au sec. Parce que même le froid, lorsqu'on est sur le sec, même le froid affecte l'adhérence de façon considérable.
Ah ben complètement, et ça, bon, vous savez, la conduite, c'est de la vision. Donc, déneiger notre voiture. Deux, avoir de la distance amplement, comme ça, ben s'il arrive quelque chose, vous avez une marge de sécurité. Trois, peut-être faire un test de freinage quand personne n'est en arrière, personne en avant, et que vous voyez que la chaussée est en train de se dégrader.
Ouais.
Ben, à ce moment-là, le fait de freiner, si vous sentez l'ABS alors que vous n'êtes quasiment pas appuyé sur la pédale de frein, ben là, vous venez de comprendre qu'il n'y a pas énormément de capacité de freinage. C'est là que vous allez augmenter les distances, réduire votre vitesse en dessous même des limites permises. Vous savez, il y a des gens qui mettent ça tellement prioritaire de respecter le 100 km/h. Quand vous n'avez pas les conditions, ben oui, vous devez...
Y aller avec la logique.
Et de grâce.
Oui. On dit souvent que les limites de vitesse ne sont pas logiques dans de belles conditions. On les trouve trop basses. On dit qu'on pourrait rouler aisément 120-130 km/h et ça serait sécuritaire pareil. Mais à l'opposé, le 100 km/h en hiver est souvent trop vite.
Oui, tout à fait. Et ça, ben, on retrouve des fois des marges de vitesse tellement énormes entre certains conducteurs qui conduisent très, très, très lentement et d'autres qui conduisent même bien au-delà des limites de vitesse dans des conditions de glace, prétextant, bon, qu'eux, ils ont les capacités et vous savez, moi, ça me dérangerait pas de revenir à la maison à 200 km/h sur la glace, mais on fait pas ça. On partage la route avec des gens, donc les routes ne sont pas...
On sait, t'as décidé de prendre ton cours de pilote d'avion pour régler le problème.
Ah, ben.
Il y a un petit truc avant qu'on... Oui.
Un truc simple, là. Vous savez, Noël s'en vient. Offrir un cours à un jeune conducteur, à quelqu'un qui est pas trop à l'aise sur la glace, à l'école Claude Bourbonnais, à Icar, à Mécadlis. Déjà, vous allez comprendre que oui, on peut contrôler une voiture, mais faut pas surestimer, faut pas sous-estimer, faut juste être conscient de ce qu'on peut faire dans de telles conditions.
Hey, juste avant qu'on arrive à notre dernier sujet, tu conduis une voiture électrique, j'en conduis une aussi depuis un certain temps, et ce matin, j'ai encore une fois réalisé que la conduite à une seule pédale sur une voiture électrique, ça peut être négatif durant l'hiver. Alors ça, il y a de plus en plus de véhicules électriques
sur
nos routes.
Comment ça?
Ben, j'aimerais que Bertrand nous l'explique, mais la décélération, la force en décélération nous fait freiner, puis déstabilise la voiture, fait que c'est spécial, là.
Oui, ben il y a un couple, comme si vous aviez rétrogradé une vitesse en trop lorsque, justement, vous relâchez la pédale d'accélérateur avec une voiture électrique à pédale unique.
Ouais.
Ce qui fait en sorte que s'il n'y a pas l'adhérence, ça peut vous emmener dans des situations vraiment problématiques. C'est pourquoi que moi, personnellement, quand je conduis ma voiture électrique, ben, j'enlève ce mode
cette fonction-là
pour avoir un meilleur contrôle. Ça,
ben, c'est, durant l'hiver c'est ou quand il pleut, en tout cas, là. Ouais.
Oui, et ça, ben, il faut qu'on puisse adapter notre conduite aux différentes technologies qu'on possède. Et il y en a tellement, une multitude aujourd'hui. C'est pourquoi que connaître sa voiture, et quand je parlais d'aller suivre un cours, ben, vous pouvez le faire avec votre propre véhicule. Et à ce moment-là, vous allez découvrir ses forces et ses faiblesses.
Bon, toi, tu as eu la chance, Bertrand, de découvrir les forces et les faiblesses d'une voiture électrique un peu plus particulière ces derniers jours. On rappelle aux gens que tu es présentement du côté de l'Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Bertrand?
Ben, j'ai la chance avec Charles-Antoine Sinotte de présenter les courses de Formule E,
ouais,
c'est-à-dire de Formule électrique. Et puis, c'est le début de la saison des essais libres avant le 14 janvier où le début de saison sera lancé au Mexique. Et puis, ben, tout le monde était fébrile parce qu'on présente la nouvelle génération, vous savez, la Formule E qui amène une nouvelle technologie à tous les 4 ans. Et là, ben, la troisième génération, elle est vraiment superbe. Une voiture qui détonne au niveau esthétique et au niveau de sa technologie avec un groupe propulseur qui dise en avant, mais malgré tout, la voiture n'est pas 4 roues motrices. C'est un système de récupération d'énergie, si bien que 40% d'énergie va pouvoir être récupérée durant l'épreuve, ce qui est quand même colossal. Et c'est ça, j'ai eu la chance de pouvoir sentir ces vibrations de ce petit laboratoire sur roue.
Bon, c'est ça, là. Ce qui est arrivé, c'est que tu as pu t'installer au volant de cette voiture-là. On va découvrir quelque part en janvier sur TVA Sport toutes tes impressions de conduite de la Formule E que tu as pu conduire. J'en suis persuadé que tu as, te connaissant, je suis persuadé que tu as réalisé un rêve en conduisant cette voiture-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le plan technique? Est-ce que d'abord, c'est une technologie qui provient toujours de chez Lucid Motors?
Ben écoutez, c'est Spark qui a fait le développement technologique de la voiture. On a plus de 10 de freins sur l'arrière. C'est un freinage électronique. Par contre, on a gardé le système hydraulique avec des disques à l'avant. Ce qui fait en sorte que c'est complètement nouveau. Et avec les nouveaux pneus Hankook, pour chauffer les pneus, ça sera une adaptation pour toutes les équipes. Car avant, juste la chaleur des disques permettait de se dissiper sur la jante qui amenait de la chaleur aux pneus, mais en n'ayant plus de disques à l'arrière, Donc, là aussi, on parlait d'adaptation de pilotage avec aussi la traînée de récupération d'énergie avec le groupe propulseur en avant qui envoie la puissance à l'arrière. Ben c'est colossal. Écoutez, ça va représenter quand même 470 chevaux, hein, cette voiture-là. Elle est plus courte, plus légère, plus rapide. Le 0-100 en 2,5 secondes, vraiment un bolide extraordinaire.
Et c'est combien d'heures de recharge sur une borne du circuit électrique, Bertrand?
ça, on n'a pas eu encore la chance, là. On est actuellement on va être en rencontre là, dans 5 minutes, justement, pour pouvoir avoir plus de réponses à toutes nos questions.
Les questions d'électromobilistes traditionnels. Est-ce que la batterie est thermorégulée?
Est-ce qu'elle est éligible aux subventions?
Oui, c'est ça. On a-tu 12 000 de subventions, c'est ça? La grande question, Bertrand, c'est qu'après avoir conduit cette voiture-là, après avoir été séduit par toute cette technologie-là, toi qui as les deux pieds dans la formule électrique plus que jamais, vas-tu réussir à convaincre Mme Plante de ramener la Formule 1 à Montréal?
Ben, j'aimerais beaucoup parce qu'on est loin là, de la première génération, malgré le fait que la course avait été très, très spectaculaire en 2017.
Ouais.
Disons, sur le plan politique, ça n'avait pas été vraiment un franc succès.
Non.
Donc, espérons qu'un jour, ça pourra revenir parce que elle est de plus en plus spectaculaire.
Mais ça serait plus que jamais... Mais ça serait plus que jamais logique d'amener une épreuve comme celle-là à Montréal dans un contexte où...
Elle n'en veut pas d'auto. Que ce soit à hydrogène, à gaz ou à cheval, elle n'en veut pas.
La seule personne qui a le droit de se promener en voiture, c'est elle.
Oui, mais, avec son chauffeur, c'est ça.
Mais
on pourra voir peut-être la voiture évoluer sur le circuit Gilles Villeneuve, ce qui serait... vraiment fabuleux.
Ben, ce qui serait génial. Puis comme le Québec est une plaque tournante en électrification, ben je me dis que c'est un endroit où, justement, ce genre d'épreuve-là pourrait avoir lieu. Et si Bertrand est impliqué dedans, et qui plus est, si Bertrand est capable d'en conduire une pour nous impressionner à Montréal, puis de gagner un Grand Prix de Formule 1 ici, ah ben là, c'est encore mieux. Mais faisons les choses par étapes. Alors, j'ai bien hâte de voir ce reportage-là qui sera sur TVA Sport. On n'a pas la date exacte.
Ce sera en début d'année prochaine, c'est bien ça.
Avant la course qui débute le 14 ou 15 janvier, tu disais?
Oui, exactement, le 14 janvier sur TVA Sport.
Bon, alors, soyez à l'affût. Vous allez pouvoir voir les impressions de Bertrand dans une voiture. Et la bonne nouvelle, c'est que comme c'est une voiture électrique, il va pouvoir vous donner ses impressions en conduisant et vous allez l'entendre. Parce qu'avec une Formule 1, c'est un peu difficile quand même.
Je pensais que c'était pour dire on va être au courant. C'est bien ça.
Oh, oui. Il l'avait déjà fait dans une autre émission. C'est du vieux stock, ça, Bertrand.
Oui, oui, oui.
C'est pour ça que j'avais anticipé cette réponse-là de ta part.
Il est quelle heure en ce moment, là, au moment où on se parle?
Il est 16h30, non?
16h32.
Ah, ben oui, exactement. Bon, alors Bertrand, merci d'avoir pris le temps de nous appeler depuis ta météo de 25 degrés, mon sacripant. Moi, je vais aller déneiger mon char.
Bon, ben, moi, je vais déneiger demain.
Ouais, à l'aéroport en revenant. C'est ça. OK, ça marche.
Merci beaucoup,
merci, Bertrand.
Merci, les gars.
Bye-bye.
Bon séjour. Merci.
Au revoir.
Antoine, c'est ce qui conclut l'émission du Guide de l'auto pour l'année 2023, ces derniers jours.
Je dirais plus 2022, mais oui.
OK, on va la refaire. Antoine, c'est ce qui conclut l'année 2022 pour le Guide de l'auto. On a enregistré, toi et moi, avec nos collègues Frédéric Mercier et Gabriel Gélinas, une émission spéciale de fin d'année qui sera diffusée les 24 et 31 décembre, et évidemment rattrapable en balado n'importe quand. On fait une rétrospective de l'année 2022, ouais. Les moments marquants de l'année, et on termine ça avec nos coups de cœur de conduite de
personnel,
l'année.
Personnel, oui, c'est voilà. Ça, exactement. Et évidemment, ben, on sera de retour dès la deuxième semaine de janvier, mais d'ici là, le 7 janvier, ça sera la diffusion de la première émission de la nouvelle saison du Guide de l'auto sur TVA, les samedis 11h30. Et pour ceux qui veulent être au rendez-vous, ben, Gabriel, Gélinas et moi mettrons à l'essai la Lucid Air qu'on a pu conduire ici sur les routes du Québec et sur un circuit. Vous aurez donc nos impressions complètes sur cette voiture-là. Alors, c'est un rendez-vous. On sera là pour 26 semaines consécutives cette année avec le Guide de l'auto. Comme quoi, on va essayer pas mal de trucs. Beaucoup de véhicules électriques, beaucoup d'hybrides cette année. Il y en a de plus en plus. Alors, d'ici là, joyeuses fêtes à tout le monde. Une bonne année 2023 et on se retrouve dans quelques semaines.
Nos meilleurs vœux pour l'année 2023.
Hey, bonne fête. Pas bonne fête, mais joyeuses fêtes à toi aussi, Germain.
Merci, c'est gentil. Joyeuses fêtes.